vous le disais, on va passer à notre sujet, la pandémie qui touche tout le monde et en particulier les étudiants. Beaucoup sont dans de grosses difficultés. Alors il y a le gouvernement qui a mis en place pas mal de mesures, le repas à 1 euro pour tous, des chèques psy, révision du droit de la bourse, des aides d'urgence, plateforme de conseil santé, des aides locales, des créations d'emplois de tuteurs et de référents pour les étudiants. Alors là, je voulais vous parler de ça parce que j'ai vu, alors ça s'adresse pas uniquement aux étudiants, mais un peu quand même, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale veut créer un minimum jeunesse en mélangeant donc RSA et la prime d'activité. Il voudrait faire un revenu de base de 564 euros accessible dès 18 ans. Le gouvernement n'est pas pour, il préfère mettre en place des aides ponctuel plutôt que de revoir les dispositifs structurels. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre en place ce revenu de base pour les 18-25 ans?
Un revenu universel pour les jeunes.
C'est ça. Voilà.
Moi je trouve pas, parce que c'est pas ciblé, justement. Je suis pour le coup d'accord avec le gouvernement. Vaut mieux des mesures ciblées qui s'adressent aux bonnes personnes que cette espèce toujours de nivellement. Puis pour les jeunes, il existe plein d'aides. Je regardais ce matin parce que je savais que ça faisait partie des sujets dont on allait parler. Il y a encore des nouvelles aides qui sont tombées ce matin. Une prime de 1000 euros pour tout jeune entre 16 et 25 ans qui souhaite se loger et acquérir ou même en location se trouver un logement indépendant de celui de chez ses parents.
Ça place plus des jeunes. Là, j'étais vraiment plus sur les étudiants. Est-ce que dans cette période, en ce moment, difficile pour eux, il y en a beaucoup qui ont perdu leur petit boulot qui leur permet de pouvoir gratter quelque argent qui leur permet de vivre, justement. Est-ce que on pourrait imaginer ça? Alors, toi, Rémi, tu es plus sur ponctuel ou structurel?
Alors, il y a des problèmes structurels, clairement, mais en ce moment, il faut quand même mettre le paquet sur des aides ponctuelles, mais qui peuvent repasser notamment par le retour au présentiel total, quitte à ce que ça ait un impact sur la situation sanitaire. Mais là, actuellement,
tu veux faire revenir les étudiants dans les facs.
Oui, parce que je suis maître de conférence et je suis responsable pédagogique des premières années.
c'est pas anodin, ça.
Je veux dire que la situation est absolument catastrophique dans les universités pour les étudiants. Mettez-vous à leur place. Depuis mars 2020, ils sont allés 2 mois à l'université. Ouais. Les 2 mois à l'université, certains commencent à revenir en demi-groupe.
Alors, les premières années, je crois.
Les premières années, et à partir de la rentrée, les deuxièmes années aussi. Je vous explique que c'est les demi-groupes. Ouais. La moitié viennent en présentiel, l'autre moitié, ça crée une grande angoisse, parce que c'est très compliqué pour l'étudiant en TD de pouvoir à la fois assurer son cours en présentiel et de faire également un cours en visuel. Moi, j'y arrive pas, personnellement. J'ai essayé, je ne vois pas comment c'est possible. Quand on doit écrire des choses au tableau, d'être à la fois devant l'ordinateur, j'y arrive pas, et mes collègues n'y arrivent pas non plus. Tout en distanciel, on permet d'avoir une certaine équité envers les étudiants, c'est plus pratique. L'hybridation, la moitié présentiel, moitié distanciel, c'est catastrophique. On a des étudiants qui, de plus en plus, ne sont pas venus à l'université, enfin, quasiment, n'ont pas mis les pieds à l'université depuis fin octobre. Ils sont perdus parce que l'université, pour les premières années notamment, c'est un nouveau monde, c'est des nouveaux codes. Il faut s'inscrire à des cours, ce qu'on ne faisait pas au lycée ou au collège.
Oui, bien sûr.
J'ai, là, sur les premières années, sur le premier semestre, sur 500 étudiants, j'en ai 80 qui ont raté une matière. Quand j'ai raté une matière, c'est qu'ils n'ont pas participé au cours parce qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient participer au cours. C'est quelque chose qu'on n'avait pas
un peu compliqué,
quand ils étaient en présentiel.
Eh oui, bien
parce
sûr.
Que là, on pouvait les voir. J'ai le responsable de la médecine préventive qui me dit « Mais là, je suis débordé parce que ça vient en flux. Il y a quelques étudiants qui nous sollicitent. Ceux-là encore, ils nous sollicitent. On a la vue sur eux. Mais il y a tous ceux qu'on ne voit pas et qui ne nous sollicitent pas. On a eu récemment un suicide à l'université de Nanterre. Un étudiant de première année qui s'est pendu dans sa chambre. On a mis 3 jours. Pour découvrir qui s'était suicidé. Voilà. Donc il faut absolument être ponctuel. Et pourquoi est-ce que je veux le retour à l'université? Ça va augmenter les nombres de cas, ça j'en suis parfaitement conscient. Mais vraiment, là, les étudiants, on est en train de faire une génération sacrifiée qui n'aura pas eu sa jeunesse. Parce que oui, pour la jeunesse, c'est de se voir, c'est de faire des sorties, mais ne serait-ce que de se voir à l'université. Et l'isolement à l'université pour des étudiants qui passent leur journée dans une chambre de 7 mètres carrés, qui ne peuvent pas sortir le soir parce qu'il y a un couvre-feu, je vous laisse imaginer psychologiquement ce que ça peut faire. La ministre qui a été catastrophique en disant il y a 40% des étudiants qui ont préféré continuer en distanciel parce que le système leur plaît bien. Non, leur système leur plaît bien. Ils sont rentrés chez leurs parents parce qu'ils ont rendu leur appartement, ça leur coûtait cher, ils n'avaient plus de boulot pour le payer. Et maintenant, trouver un appartement en cette période pour être une semaine à l'université et une semaine tout le temps chez soi, je ne vois pas l'intérêt de revenir dans ces cas-là.
Ou alors il faut avoir de gros moyens.
Ou alors il faut avoir de gros moyens. Oui, oui, bah, c'est
mais je pense
pareil.
Que la détresse, elle est plus morale et psychologique. En effet, je la nie pas du tout, même s'il y a par ailleurs une détresse financière. Mais je pense que le vrai problème, il est là. C'est le fait, c'est cet isolement, c'est ce manque de contact.
La relation qu'on peut avoir entre étudiants et qui n'existe plus depuis un an maintenant.
Puis même avec les profs, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on n'ose pas poser devant tout le monde en visio, qu'on peut aller à la fin du cours s'approcher de la strate du prof, lui dire mais alors moi j'ai pas bien compris ça, où est-ce que je peux, voilà, et qu'on peut absolument pas le faire en visio.
Alors moi sur les étudiants, je vais vous dire, je vais être franco, je trouvais qu'ils en faisaient des caisses, voilà, moi j'étais plutôt sur ce que dit Bakri.
Et y a pas à réfléchir, si ça va t'es content, ça va pas, tu patientes. C'est comme ça la vie.
Voilà, tu patientes, tu prends ton mal en patience. Ouais. C'est vrai, je me suis même pris la tête plusieurs fois avec mon épouse là-dessus, où elle pensait complètement le contraire de moi, et moi je disais non, oh, mais c'est bon, ça va, ça va durer quelques mois, un an à la limite, deux ans, qu'est-ce que c'est 2 ans dans une vie. Et puis après réflexion, je me suis dit oui, mais ce sont peut-être 2 années aussi importantes, quoi.
Clé, un peu clé dans nos vies à tous, si on repense à l'année de nos 20 ans quand même. C'est
moi, je sais pas, l'année des 20 ans, j'ai bossais déjà. L'année de tes 20 ans.
2 ans, c'est la durée des diplômes des étudiants en DUT.
Ouais.
C'est 2 années d'études.
Toi, tu étais encore en études, toi.
Oui.
Toi, t'as été à l'école jusqu'à 30 ans, au moins. T'as fait Tanguy, toi.
Non. Seulement étudiant, c'était jusqu'à 22 ans. À partir de 22 ans, j'étais en thèse, mais je travaillais. Je donnais des cours.
Voilà. C'est bien. Donc, c'est bien. C'est bien. Tu ramenais un petit peu d'argent à la maison.
Je ramenais, mais oui.
Et toi, 22 ans? Enfin, 22 ans.
J'avais mon troisième petit, donc j'étais là dur. Ça fait longtemps que je faisais plus d'études. Je travaillais dur.
Et toi,
22 ans, c'était l'armée pour moi, donc.
Le vote par anticipation pour les présidentielles, c'est un sujet qui est en débat. C'est le gouvernement qui a déposé un amendement pour permettre donc aux électeurs de voter. Mais c'est pas possible avec son téléphone. Mais à quoi tu joues là?
Il vient de changer de téléphone et il sait pas comment l'éteindre.
Éteins-le, ton téléphone, c'est pas possible. Bon, c'est Patrick Faure qui joue les élèves perturbateurs ce matin.
Qui a un maillet.
Donc, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre aux électeurs de voter de manière électronique la semaine précédant le scrutin dans un certain nombre de communes. Alors, dans le détail, les Français qui le souhaitent pourront voter même dans une autre commune de leur choix, ou même une ville se trouvant à l'étranger, parmi une liste qui sera arrêtée par le ministère de l'Intérieur. Le vote s'effectuerait donc sur une machine à voter durant la semaine précédant le scrutin. Les votes seraient en revanche tous dépouillés, bien sûr, en même temps, le dimanche soir. Visiblement, ça divise. Moi, ça m'a étonné que ça divisait. Mais bon, vous allez peut-être me dire, bah si Thierry, franchement, c'est pas sérieux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Déjà, un qui connaît bien le sujet, quand même, parce que lui, il dépouille.
Oui.
Ah oui, je suppose que ça t'est arrivé de dépouiller.
Quelquefois, oui.
Alors, bonne idée, pas bonne idée. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que pratiquement toute l'opposition est contre.
J'ai pas d'opposition de principe sur le vote électronique, sauf qu'il y avait quand même un rapport en 2008 qui disait qu'on avait actuellement pas suffisamment de garanties sur la sécurité et que ces machines étaient en fait assez facilement piratables.
D'accord.
Donc tant qu'on n'aura pas un système suffisamment sécurisé, non, je peux pas être d'accord avec le vote anticipé sur une machine électronique.
D'accord. Donc toi, c'est uniquement tu es du côté de Gilbert Collard, machine à voter, machine à tricher.
Oh non, c'est pas bien. C'est
quand même pas. Non, je pense pas
raccourci. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Ou alors tu es comme Florian Philippot, alerte fraude.
Ah bah décidément.
Non
plus. Bon,
c'est pas
alors
une fraude, tu es peut-être par l'État. Je dis pas que c'est l'État qui
tu
veut faire
une attends,
fraude.
Mais je te les fais tous.
Fais-les-moi tous.
Tu es peut-être Sébastien Chenu, porte-parole du RN, qui a dit une magouille politique qui ne dit pas son nom.
Non plus.
Oh.
Donald Trump.
Oh.
J'ai gagné.
Alors une autre déclaration, celle de Bruno Retailleau. Est-ce pour privilégier l'électorat d'Emmanuel Macron qui pourra aller en week-end en villégiature et dont il faudrait obtenir les suffrages, les suffrages anticipés? Non plus. Bon, d'accord. Okay.
Non, alors le seul petit point où il y aurait un début de vérité sur ce que dit Bruno Retailleau, c'est sur le fait que ces machines à voter vont être placées plutôt dans les villes. Oh. Ils vont pas en placer une à l'étranger, je pense. On sait que l'électorat d'Emmanuel Macron est plus urbain. Donc si on étale les durées de jours où on peut voter, notamment dans les villes, en mettant ces machines à voter dans les villes, oui, ça peut favoriser la participation de l'électorat d'Emmanuel Macron.
Ah, mais pas que. pas que. Moi, je pense que ça peut éviter l'abstention. Ça peut faire reculer l'abstention. Les gens qui ne sont
tout
pas
à fait,
là.
C'est le but.
Parce que le truc aussi, c'est bon, ça peut remplacer les procurations aussi. La personne qui n'est oui. pas, qui est là, peut tout voter fait, avant éventuellement. Oui. Qu'est-ce que j'avais noté? Ça peut faciliter aussi la distanciation si on est encore dans le Covid. De manière, tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés lors des dernières municipales.
Sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc ça peut être aussi des, voilà, il y a des vecteurs intéressants. Mais enfin, j'ai vu que l'essentiel des politiques, ils pensaient que c'était une magouille.
Non, magouille, je pense pas que ce soit une magouille de l'État. C'est pas le problème.
Enfin, moi,
mais ça peut être piraté. Et potentiellement, ça peut être piraté d'ailleurs par des...
Vous iriez voter, vous, une semaine avant? Parce qu'il y en a qui disent aussi, hop, 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 on va voter une semaine avant s'il se passe quelque chose entre les deux jours, les deux trous.
Moi, j'y vais si c'est pour virer Trump. Hein.
Et toi?
Moi, si c'est prouvé que ça peut améliorer la participation, pour des raisons sanitaires ou pas, je serais pour. Voilà. Je pense que des magouilles, parce que
oui,
j'aime
parce
pas
que
trop la théorie du complot.
Les bourrages d'urnes, ça existe.
Ouais. Ouais, le Parti communiste, il était particulièrement performant là-dedans.
Oui,
les bulletins qui sortent des chaussettes, il y en a. Hein.
Oui, j'ai jamais su comment ils faisaient parce que normalement, on compare
les
signatures, enfin le nombre de signatures et le nombre de bulletins. Donc
je te rassure.
Faudrait qu'ils m'expliquent parce que par curiosité, je voudrais voir comment on fait.
Pas si loin là du côté de la Canebière, il y a eu quand même des cas.
Bah, des assez... procurations.
Et
oui.
Un petit peu plus loin là du côté de la Corse, il y a aussi des cas assez étonnants quoi. Et toi, Laetitia, ça te dirait de voter avant ou pas?
Oui, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, effectivement. Sauf s'il y a des problèmes de sécurité de vote, mais sinon je vois pas, j'ai pas d'opposition de principe en tout cas.
Bah regardez le nombre de choses que l'on vote maintenant en distanciel.
Qu'on vote en distanciel.
Oui, des votes âgés, quand tu fais partie d'un conseil d'administration, une assemblée générale, un bureau, tout ce qui est procuration, les banques. Enfin, je veux dire, tu imagines qu'une banque là, on te demande pas de voter, et ta voix compte, elle est importante, d'accord. Mais quand on va te prêter de l'argent, tu peux signer à distance. Et tout ça, c'est quand même bien contrôlé parce que finalement, tu arrives toujours à trouver une solution pour faire en sorte que. Même si tu peux tricher, mais c'est pas parce qu'il y a 1% de triche que ça va changer le vote. Enfin, je pense pas.
Quoique
des fois, 1%, c'est important.
Bah, on l'a vu avec les États-Unis où ils ont tous dit, enfin, les anti-Trump ont dit, non, les pro-Trump ont dit que c'était un magouille & Co. Bon, il faut savoir que tous les 4 ans, hein, là-bas, il y a des magouilles, entre guillemets, mais qui, visiblement, ne font pas basculer d'un côté ou de l'autre. Hein. Tu m'arrêtes si j'ai une connerie.
Ils ont un système très compliqué là-bas, où lorsque l'on vote, on vote pour plein de choses à la fois. On vote pour le président, pour le député, éventuellement pour le sénateur, on vote pour le shérif, pour le maire, pour le conseil municipal, pour des propositions locales. Ils sont très référendums là-bas. Référendums locaux, notamment.
Oui.
Donc quand vous votez, vous avez sur votre bulletin aux États-Unis, vous avez une vingtaine de votes à faire. Donc je vous laisse imaginer le dépouillement, le temps que ça peut prendre. Surtout qu'il n'y a pas de bureau de vote pour les communes, enfin comme chez nous, pour des communes de 100 habitants, 200 habitants. Donc c'est des gros bureaux de vote et ils doivent dépouiller des bulletins sur lesquels il y a 20, 30, 30 votes à dépouiller. Le problème, ils ont des endroits aux États-Unis où on ne sait toujours pas qui est le vainqueur dans certaines circonscriptions. la deuxième de l'Iowa, hop, on a retrouvé des bulletins. Ah, on a encore retrouvé des bulletins. Et comme ça se joue à 8 voix, à chaque fois, ça change. Et on ne sait toujours pas qui est élu dans cette circonscription.
C'est marrant parce qu'en fait, la limite de la facilité par la technologie de voter, c'est à mon avis le fait que si un jour, on arrive à voter très très facilement, on va nous demander, nous allons demander à nos élus de voter plus souvent. Et ça, ce serait grave parce que ce qui est le plus préoccupant et qui d'ailleurs désengage tout le monde d'aller voter, c'est qu'on a l'impression que les présidents qui se suivent, et ce sera de pire en pire je pense, ont une telle peur de ce que pense l'opinion qu'ils sont toujours tentés de faire du référendum.
C'est
au
ce
cas
que
où.
Te dire. Oui.
Et
ouais.
Si on facilite la tâche à tout le monde pour aller voter, finalement le peuple va demander de plus en plus de référendums. Et autant c'était quelque chose pour lequel je pouvais être pour il y a quelques années en arrière, autant maintenant je me dis, nos politiques ont souvent peur de mal faire ou de faire tout simplement parce qu'ils ont peur de l'opinion. Et l'opinion publique serait tentée de dire, si vous voulez savoir ce qu'on pense, vous n'avez qu'à faire un référendum. Et là, si c'est facile à faire, les politiques ne pourraient plus reculer. Et donc, du coup, on serait tout le temps en train de voter. Mais comme de toute façon, les Français sont jamais d'accord et qu'en plus, ils sont un peu schizophrènes, on voterait une semaine quelque chose et le lendemain, on voterait le contraire. Bah, donc,
On le voit depuis un an. Depuis un an, c'est quand même magique de voir qu'au début, on n'avait pas de masque, on voulait tous des masques. Quand les masques sont arrivés, on voulait plus les masques. Après, on voulait pas être confiné. Puis maintenant, on veut être confiné. Après, on voulait pas être vacciné. Maintenant, il faut se faire vacciner. Donc, on est quand même assez dans la contradiction. Mais je vous le disais, nous sommes bons Gaulois. Hein, voilà. Si on n'était pas français, on serait pas comme ça.
Au moins, dès le départ, dès que tu as la première tendance, tu sais que ça va être totalement
le contraire qui va arriver. Non, mais on caricature, mais c'est vrai qu'on est quand même souvent dans l'opposition de ce qui est annoncé.
Mais
on aime bien.
Ne pas être d'accord, bon, on profite du fait qu'on est dans une vraie démocratie, une vraie république, etc. Ça, c'est génial, il faut en profiter, mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons le pouvoir. À un moment donné, on est beaucoup,
on n'a pas le pouvoir.
Non, mais justement.
On n'a pas.
Non, on a le pouvoir de parler, mais on n'a pas le pouvoir de faire ou défaire.
Oui.
À partir du moment où il y a quelqu'un qui a été élu, qu'il soit élu par, si on compte vraiment les voix qui l'ont mis au premier tour, qui l'ont mis au deuxième tour, 20%, ou qu'on compte le deuxième qu'il est 50 et quelques pourcents, donc il y a presque la moitié de la population qui n'est pas pour lui ou pour elle, peut-être un jour, espérons-le, eh ben, ça ne nous donne pas les droits de contester et de tout bloquer. Et si par le référendum, finalement...
Toi, tu veux qu'on
pourrait...
passe par vraiment...
Non, je pense que pour diriger un pays comme la France, ce n'est pas simple et qu'il ne faut surtout pas tomber dans une
dictature.
Déjà,
demande au maire de lettré. Déjà, gérer lettré, c'est déjà compliqué. Alors la France, t'imagines.
Et qu'il ne faut surtout pas tomber dans une dictature où là, on n'aurait rien le droit de dire. Il faut profiter de notre façon de nous comporter. On a le droit de dire, tout en laissant quand même les gens gouverner, quels qu'ils soient, qu'on soit avec leurs idées ou enfin en harmonie avec leurs idées ou pas. Voilà, parce que ça passera et puis c'est comme ça. Des fois, faut serrer les fesses, des fois on est content.
Mais c'est la vie, comme disait Bacri.
Exactement. Et voilà. Et les mauvais
tu
moments,
patientes.
Te font apprécier les bons. Et c'est pareil que tout à l'heure, comme je le dis de temps en temps, quand c'est dur, après c'est un peu plus facile.
Ouais. Un sujet qui va certainement faire plaisir à Patounet, Patrick Faure, le bien-être animal. Ah, le bien-être animal au cœur de l'actu, là aussi, depuis quelques semaines. Ça fait longtemps que je voulais en parler. L'Assemblée nationale a donné dernièrement un feu vert unanime au nouveau certificat de connaissance que devra signer tout nouvel acquéreur d'un animal, bien sûr. Ce certificat rappellera, et c'est plutôt une bonne chose, je pense, les obligations de soins. C'est quand même dommage d'être obligé de passer par là, quand même. Mmh. Obligations de soins, de vaccination et des coûts liés à la possession d'animal, la nourriture, le vétérinaire et tout ça, bien sûr. On a voté également, vous le savez, la fin des animaux sauvages dans les cirques, dans les delphinariums également. La fin de la vente de chiens et de chats en animalerie, ça c'est pour 2024. Bon, on sent que ça devient de plus en plus un vrai dossier politique. Hein. On demande aussi la fermeture des zoos.
Tu as oublié une chose.
Et autres. Attends. On parle souvent de la fin des corridas, la fin de l'élevage des animaux en batterie, la fin du gavage des oies. Alors ça me gave. La fin de l'élevage d'animaux pour la fourrure, la fin de la chasse à cours et voire la fin de la chasse tout court.
Et voir aussi la pêche sans éche vivant.
Ah oui, oui, la pêche aussi. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on part sur une bonne idée au départ, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on bascule aussi dans les extrêmes, le fait de penser au bien-être animal?
Je trouve qu'il y a encore tellement de progrès à faire sur le sujet qu'on est loin des excès, pour moi.
D'accord,
je suis assez d'accord.
Bon, ben voilà, on a des pros anti-corrida autour de la table. Non, je plaisante, je taquine. Donc oui, vous pensez que c'est plutôt une bonne chose?
Oui.
Voilà, il faut aller dans ce sens-là.
Qu'on fasse prendre conscience aux gens que lorsqu'ils achètent un chien ou un chat, c'est pas pour juste
c'est
Noël et
terrible.
Faire plaisir aux gamins, puis au bout d'un an l'abandonner,
Rémi,
c'est catastrophique.
Rémi, c'est quand même terrible d'être obligé de passer par une loi pour ça.
Oui, ça par contre, c'est un peu
c'est quand même terrible.
De se dire qu'on a besoin de ça, mais...
Il y a un manquement à l'éducation au départ. Ouais,
complètement.
Du respect
mais
de la vie et de quelle nature elle soit.
Bien
donc
sûr,
si tu n'es pas sensibilisé à ça quand tu es minot, c'est compliqué. C'est vrai que moi, j'ai passé toute mon enfance près d'une ferme. Je voyais comment s'occuper des animaux, des chiens, des chats, ne serait-ce que des cochons, des poules, les lapins. Enfin bon, et avoir un animal, c'est une responsabilité. Donc, c'est normal que
qu'on fasse attention.
Qu'on se doive d'avoir du bon sens déjà. Et puis, par contre, c'est vrai que quand on passe par des étapes comme ça, je me dis qu'on est un peu en perdition quelque part morale.
Eh oui, c'est quand même
par rapport à ce qu'on peut penser de la valeur de la vie, quoi.
Mais justement, quand on a effectivement une déperdition morale, je suis entièrement d'accord, le terme est très bien choisi. La seule solution, malheureusement, enfin, non, il y a deux solutions. Il y a une solution de long terme qui est l'éducation. Tu as tout à fait raison. Il faut éduquer les gens, il faut leur faire comprendre le sens des responsabilités. Mais c'est ces enfants qu'on fait ça.
Ah oui.
Et il y a une solution de court terme qui est la sanction. La sanction, ça va être que lorsque quelqu'un s'engage en prenant un animal, d'une part, à ce qu'il soit. Donc, prend connaissance de tout ce qu'il va avoir, du montant des frais de vétérinaire qu'il peut éventuellement avoir, il faut le prendre en compte, et l'obliger à le faire pucer. Ça permet que si après l'animal est abandonné, on puisse connaître
le propriétaire. On puisse remonter jusqu'au propriétaire. Ça serait effectivement.
Voilà. Moi, je le prends pas de ce côté de le faire. Moi, je fais pucer mes animaux pour les retrouver au cas où.
Mais oui, parce que tu n'as pas dans l'objectif de les abandonner. Voilà. Je comprends tout à fait.
Ouais, non, mais c'est vrai que ça dépend de quel
alors que c'est
côté
pas obligatoire.
À travers. Oui. C'est pas obligatoire. Si, ça le devient maintenant.
Ça le devient.
Quand tu vends des animaux, il faut qu'ils soient vaccinés. Oui, tout à fait. Mais ça, pour moi, c'est du bon sens.
Alors là, on est sur les animaux familiers que l'on a chez nous, les chats, les chiens.
On parle d'éducation pour les animaux. Mais je m'excuse. Je vais être un peu dur.
Tu vas parler d'éducation des hommes politiques?
Se retrouve souvent avec des familles nombreuses où, je m'excuse, on fait de l'élevage d'enfants.
Ah!
Et on ne donne pas d'éducation.
Ah oui,
on est sur le même registre.
On peut pas
sur l'éducation. Et
on peut pas comparer quand même.
Sur l'éducation. Écoute, on n'en est pas loin. Alors, parce que les uns et les autres se côtoient.
C'est-à-dire, en fait, t'es en train de nous expliquer que on peut avoir des enfants. Mais que quelquefois, si on ne peut pas les assumer, il faut pas les avoir. En gros, c'est ça ton message.
Non. Je dis que quand tu as des enfants, tu as un devoir, c'est de les éduquer, de les élever, de leur donner le sens des valeurs. Enfin, je suis pas extrême droite, mais les laisser se démerder et grandir
tout seul, non, c'est pas
tout seul
non,
ou avec des grands frères plus ou moins bienveillants. Waouh, c'est compliqué, quoi.
Rémi.
On se faisait une réflexion avec ma délégation au département est dans le champ du social.
Ouais.
Alors c'est peut-être pour ça que j'ai une déformation. Je vois beaucoup de situations d'enfance
difficiles,
maltraitées ou même négligées. J'en vois beaucoup, donc j'ai peut-être.
J'en suis qu'à la négligence là. Moi,
tout à fait. Mais déjà la négligence peut faire des ravages chez les enfants. Et
ça en fait, oui.
Effectivement, là, on va faire signer aux gens qui vont adopter un animal un papier pour leur porter à connaissance ce à quoi ils s'engagent. Mmh. Effectivement, il n'existe pas la même chose. Tu as raison pour les enfants.
Mmh. Bah, si tu passes voir Monsieur le Maire, si je te marie ou si.
Mais
il te dit que tu as les devoirs envers ta famille.
Oui, mais si tu n'es pas marié,
rapidement et tu bois un coup
de
verre.
Je vais te faire une annonce. On n'est plus obligé de se marier pour avoir des enfants. Je suis désolé.
Patrick,
ça va?
Ça t'amène aussi à des devoirs. Et
je sais même pas.
Je suis bien d'accord que ça t'amène à des devoirs.
Après, qu'il n'y ait pas le formalisme.
Dans le Pax, on te fait aussi une déclaration disant qu'il faut que tu fasses attention à tes enfants.
Thierry, on peut aussi avoir des enfants en dehors du Pax.
Si, ça, je le sais quand même.
Non, mais nul n'est censé ignorer la loi.
Est-ce qu'on t'a expliqué comment faisaient les enfants, Thierry?
Non, mais nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas pour ça que tu la lis ou que tu le vois.
Oui.
Mais tu le sais, donc tu vas... Quand tu as des enfants, tu vas aller voir comment tu vas les éduquer. Je m'excuse, tu prends des animaux, c'est pas le même plan. Mais pareil, tu dois savoir effectivement combien ça coûte, comment faire pour bien s'en occuper. Parce que c'est des êtres vivants, tout simplement, et c'est de bien vivre ensemble.
Alors ça, on était sur les animaux de compagnie, nos amis les bêtes, les chiens et les chats essentiellement, les poissons rouges aussi, par la même occasion, pourquoi pas. Mais lorsqu'on parle, par exemple, d'interdire les delphinariums, vous savez, tous les parcs où il y a des dauphins, des orques, etc. Ça, vous êtes aussi plutôt pour le fait d'arrêter ça, comme d'arrêter les zoos, les animaux dans les cirques, tout ça. Bon, ça a été voté, pour certains, ça vous pose pas de problème le fait de savoir que on verra plus les animaux comme on peut les voir dans les zoos ou dans les parcs, enfin je sais pas.
Ça dépend, il y a des parcs animaliers où ils sont très bien traités et en liberté. Je pense à des parcs que j'ai visités au Canada où il y a des hectares et des hectares pour voir
si loin, mais tout à fait.
Là où les animaux sont très bien traités et puis il y a des endroits
c'est
où
c'est la majorité plus, je pense.
Oui, mais par contre après c'est vrai qu'il y a des endroits aussi, on pense à certains cirques où les animaux sont vraiment maltraités, donc c'est plutôt effectivement cette maltraitance là qu'il faudrait pouvoir arrêter.
Entièrement d'accord. On a des parcs, même sur mon canton, on a un parc où les gens peuvent venir visiter les animaux de la ferme, leur rendre visite. Ils sont extrêmement bien traités. Là, ça ne me pose aucun problème. Mais effectivement, après, il y a des parcs animaliers où c'est de la batterie, c'est de l'usine, où là, on sent le mal-être animal. Et là, effectivement, je suis tout à fait pour la fermeture.
Et là, la tradition, après, ça sera ma dernière question. Oui, la tradition, alors, c'est... Alors, mais attends, laisse-moi finir. Il y a deux traditions. Il y a deux traditions qui se perpétuent depuis des siècles. La corrida, bien sûr, d'une part, et la chasse à courre, d'autre part. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On légifère, on arrête aussi ?
Oui, pour la chasse à courre, oui. Pas pour la chasse en général. Hein.
Patrick, il a eu peur.
Non, mais pas la chasse
en
général.
Il a serré les fesses.
Pas du tout.
Non, je serrais du tout, moi.
Donc,
chasse à courre terminée.
La chasse à courre et la corrida, moi, je suis pour l'interdiction, oui.
Voilà. Laetitia.
Moi aussi, parce que ça me semble d'une autre époque, et cependant, j'aurais pas toujours dit ça, parce que plus jeune, je trouvais un côté un peu esthétique, ou je sais pas comment dire, à la corrida. Donc ça me choquait moins, mais aujourd'hui, oui, je trouve que c'est un peu des pratiques d'un autre âge.
Le monsieur habillé en paillettes.
Je trouvais que.
Tu craquais sur les messieurs en paillettes, quoi. En gros, c'est pour ça que t'avais de la télé. Ah, mais voilà, mais je comprends tout. Ce sont les paillettes qui t'ont attiré.
Non, mais je trouvais qu'il y avait, voilà, que c'était quelque chose de culturel aussi, avec l'âge, en vieillissant, en m'attachant aux animaux de plus en plus, je trouve ça un peu barbare quand même.
On va se quitter. Merci Rémi Oudou, tu reviendras.
Merci.
Tu reviendras parce que.
Avec grand plaisir.
Il faudra que tu.
Il va falloir qu'il la balance en annonce.
Exactement.
Il va falloir qu'il nous fasse une annonce en bonne
forme.
Que tu nous
dises. Oui, j'y vais. Pourquoi tu y vas? Et qu'est-ce
pas,
que tu feras ton programme? Quel
sera
ton
où
programme?
J'y vais.
Nous y allons.
Merci. Ah, exactement.
Avec Patricia, j'imagine. Avec Patricia Vincent, son binôme.
Oui.
Parce que maintenant, il faut être.
Binômé. Laetitia, merci. Patounet, merci Pierre-Louis.
Merci
on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Coq à l'âne, numéro 673. Nous serons avec l'homme qui a vu l'ours, qui a bouffé le facteur, qui a pas eu peur et qui revient du diable Vauvert. Je veux parler de Christophe Pirel. À la semaine prochaine.